Europe 1. Écoutez le monde changer.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Quand allons-nous pouvoir nous faire vacciner? La question est sur toutes les lèvres. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, l'a reconnue hier dans La Croix. Si l'Union européenne a bien négocié ses centaines de millions de doses, elle n'a pas assez pensé à la production de masse et aux défis qu'elle représente. Comment rattraper le coup? Une économiste de la santé, Nathalie Coutinet, est en direct avec nous ce matin. Je recevrai ensuite Younis Abbas. Il fait partie des 5 papis braqueurs qui ont volé pour 9 millions d'euros de bijoux à Kim Kardashian il y a 4 ans à Paris. Il va nous raconter comment ça s'est passé. Et l'on terminera l'émission avec Éric-Emmanuel Schmitt. Son nouveau roman « Paradis perdu » se déroule il y a 7500 ans, juste avant le déluge. Bonjour Nathalie Coutinet.
Bonjour.
Vous êtes économiste de la santé, vous enseignez à l'Université Paris 13, vous êtes l'auteur d'Économie du médicament avec Philippe Abécassis à La Découverte. Alors, le fait d'avoir trouvé si vite des vaccins très efficaces contre les effets du coronavirus avait de quoi nous réjouir. La bourse était remontée, l'Europe, hélas, se retrouve au bout d'un mois confrontée à la pénurie. Comment pourrions-nous résoudre le problème? Que faire pour avoir des doses plus vite?
Alors, il y a un mécanisme que personne n'a pensé à mobiliser, mais qui est extrêmement important. C'est un mécanisme de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, qui permet à un pays, pour des raisons de santé publique, de demander l'autorisation à une firme pharmaceutique qui détient un brevet sur un médicament ou vaccin, de produire ou de faire produire ce vaccin sans l'autorisation de la firme, puisque les firmes, quand elles ont des brevets, eh bien, elles les détiennent et il n'y a qu'elles qui peuvent produire le vaccin ou le médicament. Et là, avec une licence obligatoire, la France ou l'Europe pourraient avoir la possibilité de produire ce vaccin et donc de réduire le problème de pénurie qui aujourd'hui est vraiment le problème numéro un.
Mais encore faut-il les obliger, parce qu'ils ne vont pas le faire de gaieté de cœur. L'OMC ne disposant pas d'une police ni d'une armée, comment on fait pour obliger un labo à nous donner ce qu'il faut qu'il nous donne la formule?
Voilà, il faut qu'il donne la formule et il faut qu'il autorise à la production, parce que les brevets sont protégés de manière extrêmement importante au niveau mondial. Alors ça, c'est l'OMC, c'est un mécanisme qui existe. Donc c'est le mécanisme des licences obligatoires qui a été prévu lorsque les accords sur la propriété intellectuelle ont été signés en 1994, ces accords qu'on appelle ATPIC en français. Et ce mécanisme donc prévu, et les firmes doivent s'y soustraire. Alors en général, il faut avouer qu'elles n'aiment pas beaucoup le faire.
Mais vous êtes la première à en parler, ou quasiment. Est-ce que nos dirigeants sont au courant?
Ah oui, nos dirigeants sont au courant. Je ne suis pas tout à fait la première, puisqu'il y a certains médecins aussi qui disent qu'il faut qu'il y ait une exemption de propriété intellectuelle sur ce vaccin. C'est aussi une demande qui a été faite par un certain nombre de pays du Sud, notamment l'Inde et l'Afrique du Sud, au mois de novembre. Cette demande, elle a été refusée par l'essentiel des pays, notamment des pays riches. Donc je pense que les gouvernements ne souhaitent pas trop mobiliser cette disposition ou ce dispositif, parce que les firmes pharmaceutiques n'aiment pas, et que dans tous les pays riches, il y a des gros laboratoires pharmaceutiques qui constituent des lobbies politiques extrêmement puissants. Et c'est sans doute un des freins.
Sinon, il faudrait augmenter les capacités de production, c'est-à-dire construire de nouveaux sites ou sous-traiter.
Alors là, il n'y a que Pfizer et Moderna et AstraZeneca qui peuvent aujourd'hui soit sous-traiter, soit construire des sites de production.
Et a priori, ça, ils sont plutôt enclins à le faire.
Ils sont enclins à le faire, mais ça met beaucoup de temps, malheureusement. Et ils n'ont sans doute pas les moyens ou la volonté pour le moment de développer. Alors, l'ARN messager, c'est aussi une technique particulière. Tout le monde ne peut pas s'improviser producteur d'ARN messager. Et on peut espérer que le vaccin AstraZeneca, qui est plus traditionnel, on va dire, comme vaccin, soit produit en plus grand nombre.
Sanofi va aider à fabriquer le vaccin de Pfizer, mais ça commencera cet été, au mois d'août, pas avant.
Oui, et puis pour le moment, ils vont le mettre en flacon. Donc c'est pas, pour le moment, Pfizer n'a pas donné la possibilité ou l'autorisation à Sanofi de produire son vaccin.
À propos de Sanofi, ça a choqué beaucoup de monde qu'en dépit du fait que Sanofi n'avait pas trouvé de vaccin, qu'il avait dû licencier du personnel, il a versé d'énormes dividendes à ses actionnaires. Comment l'expliquez-vous, vous qui êtes économiste de la santé?
Parce qu'on est sur un secteur qui est extrêmement financiarisé. On est vraiment au cœur du capitalisme financiarisé. Et donc, les firmes souhaitent avoir un actionnariat relativement stable et ont besoin de rémunérer très largement leurs actionnaires. Alors, c'est une contrainte, mais c'est aussi un choix de Sanofi qui fait partie des plus gros distributeurs, entre guillemets, de dividendes. Hein. En France, c'est le deuxième distributeur de dividendes derrière Total et très loin devant BNP Paribas. Donc, on est vraiment sur un secteur qui est extrêmement rentable, la pharmacie, et qui dégage du cash, hein, beaucoup de cash, à ses actionnaires.
Alors, on comprend bien, OK, il faut sécuriser son actionnariat, mais ça n'a pas toujours été le cas. Sanofi, autrefois, avait un actionnariat stable avec des grosses entreprises, tout simplement françaises.
Bien sûr, c'est son actionnariat. Donc, Sanofi vient d'un découpage hein, de Elf Aquitaine, à l'origine, il y a bien longtemps. Et les actionnaires principaux étaient donc Total, même quand ça a été séparé, et L'Oréal. Mais dans les années 90, surtout en France, on a beaucoup mis sur le marché financier nos grandes entreprises nationales. Et on voit aujourd'hui que c'était une erreur majeure parce que maintenant, elles sont totalement dépendantes de ces marchés financiers.
Revenons au vaccin. Est-ce que l'Union européenne, qui est aujourd'hui accusée d'avoir été trop lente, trop bureaucratique, trop exigeante avec l'égard des labos, est-ce qu'elle a bien fait de négocier collectivement pour toute l'Europe ?
Alors moi, je pense que oui, et je maintiens que oui, pour des raisons de prix notamment, parce que les laboratoires pharmaceutiques ont vraiment un pouvoir extrêmement important hein, de fixer aujourd'hui les prix des médicaments innovants. Et évidemment, à plusieurs, on est plus fort. Et alors, on n'a pas évidemment les chiffres des négociations exactes, mais on sait par exemple où il circule qu'Israël aurait payé le vaccin Sanofi 40% plus cher que l'Europe. Donc, il y a aussi quand même des questions de coûts qui sont très importantes. Donc, je pense que c'est une bonne stratégie. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a construit l'Europe pour coopérer et non pas pour se disputer, même si c'est souvent oublié. Et donc, essayer d'avoir plus de doses que son voisin n'est pas un jeu coopératif. Donc, moi, je pense que ça a été une bonne stratégie. Maintenant, sans doute une stratégie déclenchée un peu tard par rapport aux autres. Et l'erreur sans doute majeure de l'Europe, c'est de ne pas avoir suffisamment financé des laboratoires qui puissent chercher un vaccin et trouver un vaccin européen. Parce que pour le moment, on a quand même des vaccins qui viennent soit des États-Unis avec un gros financement américain, soit de Russie ou de Chine avec des gros financements étatiques. Il ne faut pas oublier que ces vaccins-là sont financés par les États.
OK, les Américains ont financé les laboratoires pharmaceutiques, donc ils sont prioritaires, mais Israël ?
Alors Israël, le cas est un petit peu particulier. C'est un petit pays, comme tout le monde le sait, avec relativement peu d'habitants. Et donc Pfizer a utilisé finalement Israël comme une zone de test en situation réelle. C'est-à-dire que les données des personnes vaccinées, les données de santé ont été fournies à Pfizer, ce qui a permis à Pfizer de voir comment son vaccin notamment empêcher la transmission du virus, parce que c'est une question sur laquelle il y a peu de données scientifiques pour le moment, et c'est une question essentielle pour sortir des confinements. Est-ce que les personnes vaccinées transmettent ou ne transmettent pas le virus ? Donc ça explique pourquoi Israël a eu beaucoup de vaccins, bon, ils les ont aussi payés plus cher, mais ils ont donné leurs données de santé à Pfizer pour étudier le comportement du vaccin.
Nathalie Coutinet, vous restez avec nous, on se retrouve juste après une pause.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nathalie Coutinet, l'auteur d'économie du médicament avec Philippe Abécassis à la découverte, est avec nous ce matin. Alors, quand on dit que l'Union européenne a été trop lente dans les négociations, il faut se rappeler que c'était quand même des paris. Hein. Les vaccins n'étaient pas au point à ce moment-là. Pfizer et Moderna ont d'ailleurs dit que si on avait négocié plus tôt avec eux, ils nous auraient livré plus vite. Il se trouve qu'on a misé plutôt sur les vaccins dont les lignes de production était en Europe en cas de fermeture des frontières. Est-ce qu'on a méprisé certains vaccins ? Ursula von der Leyen, dans La Croix, disait qu'il y avait plus de 100 entreprises qui étaient candidates pour bénéficier du soutien européen. Il a fallu faire le tri, il fallait bien choisir entre tous. Alors c'est vrai qu'on a plutôt méprisé les Russes, les Chinois. comment jugez-vous aujourd'hui rétrospectivement cette phase qui a été très délicate et sur laquelle on peste pas mal aujourd'hui à l'encontre de la Commission européenne ?
Oui, alors tous les pays ont finalement misé un petit peu sur tout, pour ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, comme on dirait. Hein. Les États-Unis ont aussi financé Sanofi, et c'est un financement qui finalement ne sert à rien pour le moment, puisque Sanofi n'a pas de vaccin. Donc évidemment que les pays ont essayé de multiplier les commandes ou les financements pour avoir un vaccin. Alors, c'est toujours facile de dire a posteriori, il aurait fallu faire comme ci, il aurait fallu faire comme ça. Moi, je ne pense pas que la stratégie soit forcément mauvaise. Ensuite, il y a des histoires aussi géopolitiques. On a effectivement méprisé totalement le vaccin russe, sur lequel on n'avait pas beaucoup de données, mais qui finalement semblerait être pas si mauvais que ça. Parce que, alors, on ne connaît pas beaucoup l'industrie pharmaceutique russe, et moi en particulier, donc je ne peux pas trop en parler, mais c'est vrai qu'il a été plutôt méprisé, on a un peu ri. Quant au vaccin chinois, là, c'est très différent, parce qu'il est aussi méprisé, alors que c'est un petit peu idiot, parce que la plupart des médicaments qu'on consomme aujourd'hui viennent de Chine. Le Doliprane, pour ne pas citer de nom, est largement produit en Chine. 34 anticancéreux très largement utilisés sont produits en Chine. Donc, il n'y a pas de raison, a priori, de se méfier comme ça du vaccin chinois. Après, ces vaccins n'ont pas fait de demande d'autorisation de mise sur le marché pour le moment en Europe. Peut-être que là, il y a quelque chose à faire de ce côté-là.
L'Union européenne a dit qu'elle a eu des exigences vis-à-vis des labos pharmaceutiques que n'avaient pas les autres, et notamment le refus d'exonérer les labos de leur responsabilité civile en cas d'effet secondaire, ce que n'ont pas exigé les États-Unis, la Grande-Bretagne ou Israël. C'est vrai ? Est-ce que...
Oui, c'est vrai qu'il y a eu des discussions autour de cette question-là, parce que c'est des vaccins qui ont été mis sur le marché avec des phases de tests très courtes par rapport à d'habitude. Et qu'il y avait une peur, il reste une interrogation sur le comportement de ce vaccin à plus long terme. Même si maintenant, ça commence à se ralentir, effectivement.
Et donc, s'il y a des problèmes, en Europe, ce seront les labos qui seront responsables.
Les producteurs, oui.
Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, tant pis.
Après, c'est des principes qui sont toujours différents entre la France, enfin l'Europe et les États-Unis, ou en France, en Europe, pardon, on a le principe de précaution qui est extrêmement important et qui n'existe pas de cette manière-là aux États-Unis, par exemple.
L'Europe et la France, vous l'avez dit, se sont révélées quand même non compétitives dans la course au vaccin. On a l'impression qu'on est devenu le tiers-monde de la recherche, la France en particulier.
En France, oui, mais on découvre que finalement, nos capacités de recherche ont été beaucoup réduites. D'abord dans les firmes pharmaceutiques, parce que notamment Sanofi délocalise beaucoup sa recherche aux États-Unis et en Chine, parce que le marché chinois, c'est évidemment le futur grand marché du médicament dans le monde, et que les entreprises du médicament se ruent vers la Chine dans la mesure où sur le reste du continent, il est assez stable, ce marché est presque saturé. Et puis la recherche publique en France est tout à fait insuffisante. On le voit, et l'exemple de la start-up nantaise qui trouve ses financements en Royaume-Uni et pas en France est tout à fait révélateur d'une problématique sur le financement public de la recherche. Et en plus, depuis plusieurs années, ce financement public il passe par des exonérations fiscales comme le crédit impôt recherche. Et il semblerait quand même que beaucoup d'études montrent que ce financement n'est pas efficace, et notamment n'est pas efficace pour financer les start-up, parce que les start-up, au départ, elles ne font pas de bénéfices. Donc, exonérer de ces bénéfices des dépenses de R&D, ça n'a pas de sens. Donc, pour tout un tas de domaines, ce mode de financement ne fonctionne pas bien. Là, on en a la preuve, et notamment France Stratégie a fait un rapport assez critique. Et France Stratégie, c'est un organisme qui dépend du Premier ministre, donc on ne peut pas les taxer d'être partiaux. Donc voilà, je pense qu'il faut réfléchir en France à ce qu'on souhaite. Il y a aussi une défiance des gouvernements depuis plusieurs années avec le monde universitaire. C'est vrai que les enseignants-chercheurs sont mal payés au regard de ce qui se passe dans d'autres pays, y compris en Suisse. Et alors, on ne compare même pas avec les États-Unis. Et puis, les universités françaises sont aussi extrêmement délabrées. Et quand on se promène à l'étranger, qu'on va voir les autres universités étrangères, y compris des universités publiques, on se dit que vraiment, on a abandonné nos universités.
Nathalie Coutinet, je l'ai dit, vous êtes l'auteur d'économie du médicament. Or, les labos, ils préfèrent les médicaments aux vaccins, ça rapporte plus. Or, pour l'instant, il n'y a qu'un seul traitement vraiment efficace contre le Covid, c'est la dexamétasone, un corticoïde qui permet de réduire la mortalité et de réduire aussi le nombre de gens qui vont en réanimation. Emmanuel Macron a dit qu'il voulait des avancées dans la recherche d'un traitement et qu'il était prêt à mettre de l'argent sur la table. Tout n'est pas perdu encore de ce côté-là, du côté des molécules, parce que c'est souvent une histoire de molécules.
Non, il y a de la recherche qui continue sur les traitements de ce coronavirus. Maintenant, c'est plus difficile, c'est plus long, il y a des phases de test. Pasteur a aussi en train de tester un vaccin par spray nasal et aussi des traitements. Donc, il y a de la recherche sur les traitements qui est en cours. Et malheureusement, tous les espoirs qui avaient été mis dans certains traitements qui existent déjà, comme l'hydroxychloroquine ou le remdesivir, pour le moment ne semblent pas efficaces. Il y a eu des grandes études en Europe et à l'OMS pour tester tout un ensemble de médicaments qui existaient déjà pour essayer de voir s'ils étaient efficaces. Pour le moment, malheureusement, les résultats sont assez mauvais.
Quand on est économiste de la santé comme vous, on va être attentif à quoi là, dans les jours, les semaines qui suivent?
Bah justement, ce mécanisme de licence obligatoire dont on a déjà parlé, qui pourrait permettre d'augmenter la production. Et puis, je pense qu'à plus long terme, il faut vraiment que l'Europe s'interroge sur ses capacités de recherche et développement en pharmacie. Et je pense qu'il faudrait construire un grand centre de recherche européen de la pharmacie, du médicament, une sorte d'Airbus du médicament, pour dynamiser la recherche, pour lui permettre d'exister, de ne pas devenir, sinon on va devenir dépendant des États-Unis ou de la Chine. On a beaucoup parlé de la souveraineté sanitaire de l'Europe pendant cette crise. Elle n'est pas seulement dans la production de médicaments. La souveraineté sanitaire, elle passe aussi par la capacité de développer de nouveaux traitements de manière efficace et concurrentielle avec ce qui se passe dans le reste du monde.
Merci Nathalie Coutinet d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Économie du médicament, c'est paru à la découverte. On se retrouve juste après une pause avec Younis Abbas. Il va nous raconter comment il a séquestré il y a 4 ans Kim Kardashian.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Younis Abbas.
Bonjour Frédéric.
Vous avez 67 ans et vous faites partie des 5 papis braqueurs qui en 2016 ont séquestré Kim Kardashian, l'influenceuse la plus célèbre de la planète, et lui ont volé 9 millions d'euros de bijoux, dont une bague de fiançailles de 4 millions de dollars. Vous racontez votre histoire dans « J'ai séquestré Kim Kardashian » qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Alors de tous les invités de cette émission, je peux vous dire qu'en annonçant votre venue, vous êtes celui où tout le monde m'a dit « Comment est-il? À quoi ressemble-t-il ?» Alors je vais pouvoir enfin leur répondre. Vous suscitez beaucoup de curiosité, parfois même de l'admiration. Mais vous, est-ce que vous êtes fier de vous?
Pas du tout.
C'est vrai?
Pas du tout.
Pourquoi?
C'est pas la vie que je voulais, c'est pas du tout ce que je voulais faire.
Non, vous vouliez pas être un voyou. Hein?
Non, pas du tout.
C'est un accident.
C'est tout le contraire.
et ce coup-là, c'était censé être le dernier,
oui,
le plus beau, et en fait, c'est devenu le coup en trop.
Oui, c'est le coup de trop. Oui.
Ouais.
Beaucoup trop, d'ailleurs.
Je suis censé vous faire la morale, hein, puisque par les temps qui courent, les animateurs, les journalistes sont censés faire la morale. Mais on est bien obligé de reconnaître que si un film s'inspirait de votre affaire, vous en seriez les héros plutôt sympathiques.
J'espère.
On a parlé à l'époque de record. 9 millions d'euros, ça paraît pas tant que ça. En quoi c'est un record?
C'est un record au niveau de, d'après ce que j'ai compris, au niveau d'un particulier.
Ah oui, sur une seule personne. Oui. C'est elle le record, c'est pas tellement vous, en fait.
Oui, voilà.
Et comment est-ce qu'on réussit un coup pareil, sans effraction, sans violence, on y reviendra, dans un quartier pareil, avec une personnalité aussi connue? Il faut forcément de solides tuyaux et des complicités à l'intérieur.
Oui, le mieux, c'est de s'informer avant et de prendre quelques précautions. Mais bon, on n'est jamais à l'abri du grain de sable.
Il y a eu un grain de sable, là?
Non, il n'y en a pas eu.
C'était du vrai travail de professionnel.
C'est très, très bien passé.
Ça s'est passé donc dans une résidence hôtelière de luxe, dans le quartier de la Madeleine, pendant la Fashion Week. Alors, un quartier où il y a quand même beaucoup de policiers, il y a beaucoup de caméras. Quand j'ai appris cette affaire, je me suis dit, mais comment ont-ils fait pour repérer les lieux sans que l'on retrouve leurs bobines ensuite sur les bandes vidéo?
Vous avez la réponse dans le livre.
J'ai eu la réponse dans le livre, mais ceux qui se sont posés la question et qui n'ont pas encore eu le livre, expliquez-leur comment vous avez fait.
On utilise des tierces personnes, de préférence des personnes âgées ou des promeneurs de chiens. On leur donne juste une série de choses à vérifier. Par exemple, la porte, qu'elle soit toujours ouverte. C'est le va-et-vient. Mais les mêmes personnes n'ont pas la même chose à faire. Une personne vérifie la porte. Une autre personne va vérifier qui vient et qui ne vient pas. À quelle heure c'est ouvert, à quelle heure c'est fermé.
Et aucun de ses complices, qui ne savait même peut-être pas ce qu'il faisait, aucun de ses complices n'a été inquiété. Personne ne les a repérés ensuite sur les...
Les gentlemen, on ne fait pas porter le poids de nos erreurs sur les autres.
La nuit du vol, vous êtes venu à vélo, chacun de votre côté. Vous avez enfilé des uniformes de policiers. Et ça a suffi pour vous permettre d'entrer. Alors, vous venez de nous dire, la porte était toujours ouverte.
Hein. Oui, c'était impératif qu'on vérifie que la porte soit ouverte. Elle était ouverte. Mais la porte qui est dans la grande porte, parce qu'en fait, c'est deux portes battantes et une petite porte dans la porte battante, c'est celle-là qui est ouverte. C'est pour ça qu'on est arrivé en VTT. On a pu rentrer les vélos à l'intérieur. On ne pouvait pas mettre une voiture plaquée avec des numéros volés sur le boulevard. Elle aurait été repérée par la police. Donc, j'ai bien fait, parce que quand je suis ressorti, après, je suis tombé sur une ronde de police.
Oui, on va le raconter. Vous avez attaché le concierge. Est-ce que vous étiez armé ?
Non, nous, en bas, on ne l'était pas. Mais d'après ce que j'ai appris, par la suite, pour ceux qui sont montés, ils l'étaient. C'est ce que me dit la justice, c'est ce qu'a dit en tout cas la victime.
Vous ne saviez pas où était l'appartement occupé par Kim Kardashian, c'est le concierge qui vous l'a révélé.
Oui, c'est lui qui nous a donné la clé révélée, ou c'est lui qui a même fait le traducteur.
Alors, Kim Kardashian n'a pas été ligotée dans sa baignoire, comme ça a été dit à peu près dans le monde entier par la suite.
Ouais, moi, ce qu'on m'a, les propos qu'on m'a rapportés, parce que moi, je ne suis pas monté.
Vous êtes resté en bas.
Je suis resté en bas, moi, j'ai fait la réception, je me suis occupé de la réception. Donc, en gros, ce que m'ont raconté mes collègues, c'est qu'ils l'ont attaché, ils l'ont mis sur le lit, ils sont partis.
Ça a duré très très peu de temps. Et la preuve qu'elle ne pouvait pas être ligotée dans la baignoire, dites-vous, c'est qu'au fond, dans cette salle de bain, était cachée sa secrétaire. Ça, c'était le grain de sable qui aurait pu poser problème, qui n'a pas posé problème.
Oui, c'est vrai, exactement.
C'est ça, c'était le côté imprévu. Vous saviez tout, sinon.
Qui avait failli nous porter quand même préjudice, parce qu'elle a appelé le 912.
Oui,
la police américaine. Le 911, la police américaine. Oui. Donc, voilà. Sinon, si elle avait pu peut-être joindre plus tôt, ça aurait pu nous causer un préjudice quand on serait ressorti.
Ouais. Et donc vous êtes resté en bas, mais enfin vous savez à peu près ce qui s'est passé en haut. Elle est donc ligotée sur son lit, mais comment est-ce qu'ils ont trouvé les bijoux ? Vous saviez où étaient les bijoux ?
Ils étaient posés près d'elle, elle ne les a pas cachés, elle les a donnés. Hein.
Ouais. Elle avait tout, c'est le genre qui a
toujours
ses bijoux.
Elle avait la bague qui était posée, sur ce qu'on m'a raconté, sur le bord du lit, et les bijoux, son coffret à bijoux à côté. Et ils ont demandé la bague, the ring, ring, ring. Moi, je ne savais même pas que ça se disait comme ça en anglais.
Ring.
Et ils ont remis, elle leur a tout donné, et sont redescendus.
Alors, vous insistez beaucoup dans ce livre pour dire que ça s'est passé sans violence. Enfin, tout de même, c'est cruel, j'allais dire presque violent, de voler ses bijoux à quelqu'un, non ? C'est un prolongement, de soi-même, on y tient pas seulement pour leur valeur.
Bien sûr, il y a un côté violent pour la personne qui subit. Mais moi, quand je parle de non-violence, je parle de violence physique.
Oui. Là, effectivement, on ne vous a rien reproché dans ce domaine. Vous n'avez donc pas vu Kim Kardashian, vous êtes resté en bas, vous saviez à peine qui c'était, vous dites.
Même pas du tout.
Pas du tout, en fait. Et depuis, vous êtes énormément intéressé à elle. Vous êtes allé visionner sur Internet tout ce qui la concerne. Elle vous a fasciné par la suite. Hein.
En fait, j'ai voulu savoir. Je connaissais la famille Kardashian comme titre de série, mais je ne savais pas ce que c'était. Et après cette histoire, donc, je me suis intéressé, j'ai cherché à savoir qui c'était. Bon, j'ai pas mesuré non plus le poids de sa renommée.
Vous n'aviez pas imaginé que ça ferait un tel barouf ?
Ah, pas du tout.
Ça vous a un peu foutu la trouille d'ailleurs.
Oui,
hein,
oui,
quand
oui,
on vous lit, on se rend compte que vous n'êtes pas à l'aise.
Oui, oui. Quand j'ai mis la famille Kardashian, que je l'ai vue à la télévision, dans sa série, qui est, excusez-moi, un peu nunuche, faut avoir envie de regarder ça. Bon, j'ai voulu voir à qui j'avais affaire. Et je la vois justement, elle jette une bague dans la piscine, un diamant, vous savez, dans la piscine. J'ai dit, bon, ça va, j'en ai assez vu. Et j'étais gêné, j'avais l'impression qu'elle me voyait. J'avais l'impression qu'elle me montrait du doigt. J'étais très mal à l'aise.
La bague qu'elle jetait à la piscine, c'est la fameuse bague de 4 millions de dollars. Non, c'est une autre.
Non, oui, c'est...
la bague de 4 millions de dollars, d'ailleurs, la bague de fiançailles, vous avez l'air de dire qu'elle ne valait peut-être pas ce prix-là. T'es peut-être pas aussi pur qu'on le pensait.
C'était pas de très très bonne qualité, mais bon, c'était quand même 20 carats, 19 carats et demi, je crois, un truc comme ça.
Oui, c'est quand même.
Mais c'était pas une couleur extraordinaire.
Ouais, vous n'allez pas faire le
non,
difficile.
Non, je le fais pas.
On fait une pause, on se retrouve juste après Yonis Abbas.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Yonis Abbas. l'auteur de « J'ai séquestré Kim Kardashian » aux éditions de l'Archipel. Il faisait partie des 5 papis braqueurs qui, en 2016, ont volé à Kim Kardashian pour 9 millions d'euros de bijoux. On a toujours insisté sur ces papis braqueurs. Pourquoi est-ce que vous étiez tous âgés de plus de 60 ans?
D'abord parce qu'on se connaît. Enfin, on ne se connaît pas toujours directement, mais on connaît un tel ou un tel décédant de notre génération. Et en plus, les jeunes, ils ne travaillent plus comme ça.
Ah oui ?
Vous ne pouvez pas prendre un jeune avec vous, c'est très très dangereux. Vous ne savez pas comment il va se comporter.
Pourquoi ? Ils sont plus excités ?
Ils sont plus violents. Souvent, c'est malheureusement des toxicomanes. Et puis, il y a besoin de discrétion. Il n'y a pas besoin que ce soit rapporté, connu de tout son entourage. Donc tout ça fait qu'on s'adresse plutôt à des gens dont on connaît la réputation. De tranquillité.
Oui. Yunis Abbas, il devait avoir une bonne confiance en vous, puisque c'est vous qui partez ensuite avec le butin.
Hein, mais alors ça, c'est une erreur.
Enfin bon, il se trouve que c'est vous qui partez avec le butin.
Oui, une partie du butin, parce que là-bas que j'avais pas.
Ouais, vous avez, enfin une bonne partie. Vous êtes enfui à vélo, donc chacun de votre côté. Vous êtes parti avec une bonne partie des bijoux. Et votre fuite est très très bien racontée dans le livre. On voit bien qu'il y a une tension qui est quand même extraordinaire, qui se libère à ce moment-là, hein, quand vous partez. Oui, il y a des rondes de police, on est dans un quartier très surveillé, et il arrive ce qu'il arrive généralement dans les films, vous savez, on se dit, bon, ils ont voulu augmenter le suspense, et vous, ça vous est arrivé dans la vraie vie, vous tombez de vélo.
Oui, il y a une sacoche qui se prend dans la roue avant, et je fais une culbute, je fais un roulé-boulé.
Et une partie des bijoux roulent.
Et le sac, évidemment, s'ouvre et tout. Et, voilà. Et c'est là que je découvre que les bijoux sont dans le sac.
Oui, vous ne le saviez pas. C'est quand même assez drôle. Et est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez rien oublié ensuite quand
Alors
vous avez
oui, j'ai appris plus tard que j'en ai oublié une gourmette ou une broche, je ne sais pas.
Un pendentif, exactement, de 30 000 dollars.
Oui, c'est ce qu'on nous a rapporté.
Ouais.
J'ai lu dans la presse. D'ailleurs, on a même raconté que j'avais laissé mon ADN dessus, mais je ne l'ai jamais touché. Donc,
L'ADN, oui. Mais de toute façon, même le pendentif de 30 000 dollars, j'ai des doutes. Je me suis dit, un pendentif, forcément, quelqu'un ramasse. Pourquoi il serait allé le chercher là?
Enfin, c'est une dame qui l'a trouvé, qui l'a rapporté, d'après ce que j'ai entendu dire.
Ouais. Bon, admettons. Et ensuite, vous récupérez votre camionnette. Et là, c'est extraordinaire, puisque tout à coup, il y a un téléphone qui sonne. Alors, il sonne plusieurs fois. Ça commence à vous énerver. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Vous finissez par trouver le téléphone dans le sac. Vous l'ouvrez. Il y a un nom qui s'inscrit. C'est celui de Tracy Chapman, la danseuse, la chanteuse.
Chapman. Et c'est moi qui fais l'association Tracy Chapman.
Non, mais c'est surtout drôle de se dire que c'est Tracy Chapman qui essaye de lui joindre Kim Kardashian. Évidemment, à ce moment-là, que vous avez le téléphone de Kim, en fait.
Mais ouais, je ne le sais pas. Mais il faut savoir que c'est la seule américaine que je connais qui s'appelle Chapman.
Oui, c'est vrai. Oui, au fond, je me suis dit aussi, moi aussi, c'est Tracy Chapman, mais c'est pas sûr.
Non, c'est moi qui fais l'association. Parce qu'il y a aussi Chapman qui a assassiné John Lennon. Je crois qu'il s'appelle Chapman aussi.
Oui, mais il n'y a pas de raison qu'il appelle Kim Kardashian.
Voilà. Donc, mais c'est les deux seuls que je connais, dont je connais le nom.
Après, ça devient difficile. Ces bijoux, il faut les convertir en billets de banque, il faut aller chez un reseller. On sait qu'on va toucher bien moins que leur valeur réelle. Est-ce que vous avez touché votre part?
Non. J'aurais touché une partie que la justice m'a repris.
Les 67 000 euros qu'ils ont trouvés chez vous. C'est tout.
C'est tout.
Mais qu'est-ce qu'il est devenu, cet argent?
Parce qu'on n'a pas eu le temps.
Oui, mais il y a bien quelqu'un qui l'a.
Ah, bah oui. Mais bon, comme on ne peut pas se contacter, on ne peut pas se parler.
Ah oui, vous savez pas. Vous avez fait vous avez tiré un trait dessus.
Avec les années, il vaut mieux.
Ouais, enfin, c'était il y a 4 ans seulement. Hein.
Oui, mais les gens qui se sont occupés de ça, ils vont vous dire qu'ils sont fait arrêter, qu'ils l'ont perdu aussi. Enfin, c'est des histoires.
Oui, ça devient compliqué.
Comme je suis pas en âge de prendre le 11-43 et d'y aller, donc j'oublie, je préfère oublier.
Les bijoux n'ont jamais été retrouvés?
Ben non. Aucun, à part celui qui était perdu.
Oui, et il paraît qu'on a retrouvé à Los Angeles, il y a quelqu'un qui en a...
Ah oui, mais c'est ceux qui avaient été déclarés dans le vol et qui n'étaient pas dans le vol.
Voilà, et qui ont été déclarés par la déclarante. Voilà, mais en fait, ils n'y étaient pas. Vous avez été arrêtés tous les 5 le même jour, le 9 janvier 2017. Comment on vous a identifié? C'était si bien préparé?
Alors, c'est à cause de l'ADN, parce que j'étais fiché connu pour l'ADN, et mon collègue aussi, c'était l'ADN. Tout simplement parce que c'est l'ADN de contact. Alors on nous a répété que c'était grâce aux Américains, que le FBI avait une technique pour reconstituer l'ADN.
Ah, parce que le FBI vient enquêter en France quand...
Paraît-il, j'ai aucune preuve, qu'il aurait apporté son aide. En tout cas, il l'a proposé officiellement. Et donc, ils ont reconstitué mon ADN, ils ont mis d'ailleurs un peu plus de temps, et ils avaient identifié celui de mon complice. Ils l'avaient identifié en premier, lui, son ADN était entier. Mais le mien, il a fallu le reconstruire.
Et puis, il y avait les trois autres qui étaient sur place également, et puis les complices étaient là aussi. Hein.
Quel complice ?
Oui, c'est vrai, vous ne connaissez personne. Au même moment, Kim Kardashian a livré son premier témoignage, elle n'avait rien dit hein, sur Internet.
Elle avait été correcte.
Voilà, et là, elle a dit qu'elle avait eu peur de mourir, que vous ayez, enfin pas vous, puisque vous étiez en bas, mais les autres, vous aviez failli lui tirer dans le dos.
Oui, elle n'a jamais été en danger, mais bon, elle avait raison de l'imaginer, de le croire. Après, oui. Vous savez comment elle est, comment c'est une actrice, pas une actrice, mais enfin, elle est une star. Elle a un entourage, ouais. Mais bon, j'en tiens pas rigueur.
Vous avez été remis en liberté provisoire au bout d'une vingtaine de mois. Vous serez jugé quand ?
À mon avis, fin de l'année ou l'année prochaine.
Vous risquez de retourner en prison ?
Bien sûr, c'est possible.
Ça vous angoisse ?
Oui, parce que j'ai plus la santé.
Ouais. Enfin, vous êtes bien conservé quand même, je vous ai sous les yeux.
Oui, mais j'ai quand même pas mal de petits problèmes, même de gros problèmes. J'ai pas mal de soucis.
Vous avez passé quand même déjà un tiers de votre existence hein, en prison.
Oui, à peu près 21 ans. Ouais.
Vous regrettez ?
Bien sûr.
Et cette vie, et ce coup-là ?
Alors ce coup-là, il n'y a pas de doute. Après, la vie, je l'ai vécue au fur et à mesure des événements. Mais... Vous savez, quand j'avais 16 ans, un de mes cousins s'est fait arrêter pour un vol de voiture. Je l'ai insulté, j'ai dit « Tu nous as humilié, qu'est-ce que tu nous as fait ? Tu nous as ramené à la police, je l'ai engueulé et tout. » Et j'ai fait pire que lui. Voilà, je me rappelle toujours cette scène. J'étais pas du tout... En plus, je travaillais, j'adorais les bagnoles.
Vous étiez garagiste.
Ouais, je bricolais, je me suis installé à mon compte. Bref, j'avais une autre vision. Je me suis marié, j'ai eu des enfants parce que je me tenais tranquille. Je voulais plus faire de conneries. Et les aléas de la vie font que... On prend des raccourcis qui vous rallongent, des raccourcis qui vous rallongent.
Oui, c'est ce que vous racontez dans votre livre, qui n'est pas mélancolique, votre livre. Au fond, il y a une jovialité. En même temps, on sent bien que vous regrettez tout ça. Quoi.
Oui, c'est ma nature. Je peux pas revenir en arrière. Donc, je l'assume. J'en suis pas fier, mais elle est telle qu'elle est. Elle est comme ça.
Merci, Younis Abbas, d'être venu sur Europe 1. J'ai séquestré Kim Kardashian. Votre livre vient de paraître aux éditions de l'Archipel. On se retrouve dans un instant avec Éric-Emmanuel Schmitt.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Éric-Emmanuel Schmitt.
Bonjour.
Le premier volume de La Traversée des Temps, qui en comptera 7 autres, vient de paraître. C'est une saga romanesque qui va vous permettre de nous raconter l'histoire de l'humanité. C'est un peu Sapiens de Yuval Noah Harari, mais version saga de l'été sur France 2.
Bon, là je suis mort.
Non mais c'est tendre, je vous dis ça. Ça commence aujourd'hui par l'explosion du port de Beyrouth d'ailleurs, alors que nous sommes 8 milliards et on comprend que le narrateur Noam est immortel. Après tout, l'immortalité c'est sans doute la plus ancienne quête de l'humanité.
Oui, spontanément on veut tous être immortel. Après quand on réfléchit, on se rend compte qu'il vaut peut-être mieux pas. Parce qu'on n'a pas forcément... On traîner son ignorance pendant l'éternité ou traîner aussi ses chagrins pendant l'éternité, est-ce que c'est vraiment souhaitable ?
Lui va nous raconter sa vie, c'est-à-dire la nôtre, hein, puisqu'il vit depuis plusieurs milliers d'années. Et ça nous permet de nous retrouver au néolithique, là où tout a vraiment commencé. Et d'abord cette démographie galopante qui fait que nous sommes tous aujourd'hui 8 milliards.
Hein. Oui.
C'est là que ça commence. L'homme a inventé l'agriculture, c'est là qu'il se sédentarise. Vous n'aviez pas envie de nous faire remonter jusqu'aux cavernes ?
Non, parce que j'ai placé chaque volume dans un moment de bascule. Et là, on est il y a 8000 ans, dans un moment de bascule, c'est-à-dire qu'on est vraiment passé des chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres nomadiques qui étaient peu nombreux dans une nature extrêmement généreuse, et donc qui finalement consacraient assez peu de temps à leurs besoins alimentaires et avaient du temps pour jouir, pour rêver, pour méditer, je ne sais quoi. Et tout d'un coup, il y a une ruse de l'histoire ou un piège que se tendent les hommes à eux-mêmes, ils se sédentarisent, c'est-à-dire ils vont s'installer sur des villages lacustres. Et mon héros, Noam, naît dans un de ces villages lacustres, puisque le lac assure à la fois l'eau en permanence et aussi les poissons, donc la nourriture en permanence. Et là, c'est un véritable piège. Parce que d'un côté, il y a des avantages. Oui, les familles vont s'agrandir, on va faire plus d'enfants. Mais aussi, on va devenir dépendants les uns des autres. Le travail va se diviser. Le savoir va se morceler. Et puis surtout, la femme va être condamnée à son rôle de pondeuse et s'occupant des rejetons. Il y a le début de l'aliénation de la femme est sans doute là. Et aussi, le fait qu'on va se mettre à beaucoup plus travailler que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. On va travailler tout le temps, alors que nos ancêtres travaillaient assez peu. Donc là, il y a le passage à un état de clan et de société qui nous a coincés.
Au fond, c'est au néolithique que l'on invente la propriété privée, que l'on se regroupe en village, que l'on commence à mépriser les autres groupes,
oui,
que l'on se choisit des dieux et des chefs, que l'on divise le travail, vous l'avez dit, entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les agriculteurs, les commerçants, les combattants et les prêtres. Au fond, que les inégalités commencent à se creuser, que la violence et la guerre s'installent. C'est une époque passionnante, mais que l'on n'apprend malheureusement pas à l'école. Vous ne trouvez pas ça étonnant ?
Je suis très étonné parce qu'en plus, je me suis rendu compte que moi, j'aimais beaucoup me promener en tant que romancier dans un personnage, Noam, du néolithique, et que j'y éprouvais même assez de facilité, et puis voir à la limite, à la fin, un brin de nostalgie.
Vous l'avez d'ailleurs appelé paradis.
Paradis perdu. Ouais. Non, parce qu'il y avait un rapport de nos ancêtres à la nature qui était totalement différent du nôtre, c'est-à-dire que l'homme se pensait un hôte parmi les hôtes de la nature, un vivant parmi d'autres, sans statut d'exception, sans surtout de supériorité, et pas du tout l'idée de la domination et de la domestication de la nature.
Ah, pourtant, c'est là que ça commence.
Ça commence là, mais ça commence toujours sans qu'on soit conscient du processus qu'on met en branle. Et finalement, c'est cette façon d'être au monde, en plus, en ne pensant pas que l'esprit est le propre de l'homme, puisque dans l'animisme, les esprits sont partout. Tout a une âme, les animaux ont une âme, l'écorce a une âme, la pierre est habitée par des démons, la source a un esprit, le vent aussi. Et donc, ne pas réserver l'intelligence et l'âme à l'homme, mais la mettre partout, créer finalement une espèce de sentiment unanime, de communion avec la nature dont nous sommes bien loin aujourd'hui. Puisque la nature, on la domine, on la domestique, au point même qu'aujourd'hui, on peut se demander si on ne va pas la faire crever. Ou plutôt, faire crever la possibilité d'y rester dans cette nature, parce qu'elle nous survivra, à cause de ce qu'on lui a fait.
Au fond, la nature et les dieux, c'est la même chose à l'époque. Hein.
Complètement.
Et la nature, ou bien ce sont les dieux, se vengent dans votre roman, puisque votre héros a vécu le déluge. Mais pourtant, c'est un mythe, hein, le déluge. Il est né chez les Sumériens, on va le reprendre ensuite chez les Acadiens, les Sémites, on va le retrouver dans l'épopée de Gilgamesh, dans la Bible. Et ça va perdurer assez longtemps, hein, jusqu'au 19e siècle. On croira qu'il y a eu un déluge, d'où l'adjectif antédiluvien, qui signifie « datant d'avant le déluge ». Alors, le déluge, mythe ou réalité ?
Ben, il semblerait que le mythe soit le souvenir d'une réalité et l'interprétation d'une réalité. Parce que la science ne s'est pas arrêtée au 19e siècle. À partir de 1990, on a fait des découvertes. On a découvert que dans la mer Noire, il y avait des fonds qui étaient supposés des animaux lacustres. C'est-à-dire que sans doute la mer Noire était d'abord un lac. Un petit lac.
C'est votre fameux lac.
C'est mon lac. C'est le lac où est né Noam, mon héros. Et en fait, aujourd'hui, la thèse prédominante, c'est de se dire que comme on sortait, c'était la fin du glaciaire, la température remontait. Elle remonte de 4 degrés, ce qui fait remonter la Méditerranée de 140 mètres. Vous vous rendez compte, 4 degrés, 140 mètres. Et à ce moment-là, la Méditerranée a brisé la terre au niveau de Constantinople, aujourd'hui, enfin d'Istanbul.
Et du Bosphore, elle a remonté Bosphore. Le Bosphore.
C'est-à-dire, elle a créé, elle est passée dans la plaine ukrainienne et la Méditerranée est devenue, à cet endroit-là, la mer Noire. Donc en fait, il n'y a pas eu un déluge universel, comme nous le raconte Gilgamesh ou la Bible. Il y a eu un déluge local, mais là où l'humanité était globalement... le souvenir de ce déluge est resté dans la mythologie.
Parce que c'est une inondation dévastatrice. Hein. Ce que vous venez de nous raconter, c'est l'hypothèse de deux géologues, hein, Ryan et Pittman.
Oui.
Ça se serait passé il y a 7500 ans. Et une inondation invraisemblable hein, qui aurait eu lieu autour de la mer Noire et qui aurait vraisemblablement poussé à émigrer toute une partie des habitants qui avaient survécu à ce déluge, mais
oui,
qui ensuite sont partis partout ailleurs et ont raconté leur aventure.
En fait, les habitants de la plaine sont morts et sont restés les montagnards qui ils se sont trouvés côtiers à ce moment-là. Donc, ça a été véritablement une...
C'est le cas de votre héros, lui, qui survit grâce à sa maison flottante, on ne va pas tout dévoiler. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est là, au fond, que naît le catastrophisme. C'est à ce moment-là que l'on s'aperçoit que les fables sont plus fortes que la réalité aussi. Puisque ce que vont raconter ces gens, après, c'est une catastrophe qui va devenir une fable. Oui. Et c'est là qu'elle est puissante et c'est là qu'elle perdure. Exactement. Au fond, c'est la fable qui nous plaît.
Parce que la fable met du sens et organise le chaos. Alors les hommes se rassemblent toujours autour de fables. Et moi, j'essaye de montrer comment cet événement purement physique est devenu fabulaire, mythologique, religieux, spirituel, après dans la culture.
Vous dites vous-même que ça a certainement encouragé le monothéisme, qui apparaîtra pourtant quelques millénaires plus tard. Hein. Oui. Mais qu'au fond, après cette catastrophe, on a dû avoir besoin d'unification de tous ces petits univers fragmentés, éparpillés.
Il faut voir que les mouvements théologiques sont toujours liés aux mouvements politiques. C'est-à-dire, plus le pouvoir se centralise, plus les dieux se concentrent et vont aussi vers une figure dominante. C'est vrai, c'est complètement parallèle. Après, ce n'est pas une raison pour ne pas croire, mais il faut voir quand même une concordance de l'évolution de l'organisation politique avec l'organisation des panthéons qui finissent par la fin du panthéon et le monothéisme total.
Dernière question, Éric-Emmanuel Schmitt. Pourquoi a-t-on envie de raconter l'histoire de l'humanité en ce moment ? Vous n'êtes pas le seul, faisait allusion à Harari, mais il n'est pas le seul non plus.
Non.
Pourquoi cette tentation qui n'existait guère il y a 50 ans ou 100 ans, personne ne s'amusait. On racontait les Thibauts, on racontait des sagas familiales, mais pas l'histoire de l'humanité.
Parce que la notion d'histoire a changé. Par exemple, Alexandre Dumas avait eu le projet d'écrire une histoire de l'humanité.
Ah oui.
Oui, mais avec le juif errant. Mais il l'écrivait autour de grandes figures politiques comme Néron. Parce que ce qu'on appelait l'histoire à l'époque, c'était l'étude des grands hommes et des mouvements politiques du pouvoir. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'histoire depuis le XXe siècle et ce qu'on appelle la nouvelle histoire, c'est l'étude des mouvements de fond, des changements technologiques, des changements structuraux qui font que la société évolue. Donc aujourd'hui, on peut raconter une autre histoire qui est une histoire au fond des mouvements lents et des fondations. Et je crois qu'on a un champ de récit qui est totalement différent et totalement neuf.
La traversée des temps, c'est le premier volume, Paradis perdu, ça vient de paraître chez qui d'ailleurs ? Chez Albin Michel, j'imagine, c'est
mais
votre éditeur.
Je ne sais pas si c'est de la fidélité ou de la paresse, mais c'est chez Albin Michel.
Merci Éric-Emmanuel Schmitt. Europe 1. C'est arrivé cette semaine, se termine, on se retrouve demain matin à 9h. Après le flash, vous avez rendez-vous avec Sébastien Guyot et les grandes voix d'Europe 1. Quel est le programme, Sébastien ?
La nouvelle stratégie de com' d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est le retour de Jupiter ? Le projet de loi sur les séparatismes ? Les religions sont-elles une menace pour la République ? Et puis l'affaire Navalny qui empoisonne les relations UE-Russie.
Merci Sébastien, bonne émission.
Merci, à demain.